VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mardi 23 février 2016. Avec vous de Washington, Claire Morin-Gibourg et Anne Alberson. Tout d'abord, les titres.
Présidentielle au Niger, les premiers résultats commencent à tomber et Mahamadou Issoufou est en tête.
Au Tchad, la mobilisation ne faiblit pas suite à l'affaire du viol de la jeune Zoura.
Nous sommes en train de préparer d'autres actions au nom de notre organisation qui est le Kamojet pour que vraiment plus jamais ça au Tchad.
Au Congo-Brazzaville, le général et candidat Jean-Marie Michel Mokoko a subi un interrogatoire.
Le Rwanda veut relocaliser tous les réfugiés burundais sur son territoire.
Barack Obama s'est entretenu avec Vladimir Poutine pour évoquer la trêve en Syrie.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Présidentielle au Niger, les premiers résultats commencent à tomber et pour le moment, le président sortant Mahamadou Issoufou serait en tête devant l'opposant à Mahamadou. Les derniers détails avec notre envoyé spécial au Niger, Nicolas Pinault.
Oui, il faut bien le dire, pour le moment, il ne s'agit que de tendances sur une très faible partie des bulletins exprimés, même pas 10%. La Commission électorale nationale indépendante qui dévoile petit à petit ses résultats. Pour le moment, le président Mahamadou Issoufou est toujours en tête. Devant Ama Amadou, le leader du Modène Lumana, on se souvient qu'il n'a pas pu mener campagne, il est derrière les barreaux. Troisième, Seyni Oumarou. Quatrième, Ibrahim Yacouba. Ce ne sont que des tendances, je le disais. Pour le moment, le taux de participation avoisine les 71%. Mais patience, évidemment, puisque c'est tout au long de cette journée de mardi que les résultats vont s'affiner. Il faut se rappeler que plus de 200 bureaux de vote ont été ouverts, c'était lundi, et donc cela va modifier certainement un peu la participation. Mais pour le moment, on le répète, la Commission électorale nationale indépendante qui dévoile ses résultats qui ne sont que provisoires, mais la tendance reste la même. Un trio se dessine, Mahamadou Issoufou et Ama Amadou très loin devant, et derrière, à environ 10%, Seyni Oumarou, le candidat du MNSD Nassara qui était deuxième lors de la présidentielle de 2011. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Et rendez-vous sur notre site voaafrique.com et sur notre page Facebook pour suivre les résultats de cette présidentielle au Niger.
Toujours dans l'actualité africaine au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko, rival du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle anticipée du 20 mars, a subi hier un interrogatoire en règle avant de rentrer chez lui. Des détails avec Eddy Issango.
Les procureurs de la République au Congo-Kala avaient ordonné l'interrogatoire du général Jean-Marie Michel Mokoko. Ce dernier a été interrogé hier pendant plus de 6 heures à la Direction générale des surveillances du territoire. Puis il a été raccompagné librement chez lui, selon son avocat, maître Eric Yvon Ibwanga, qui n'a pas révélé les contenus de l'enquête. Depuis plus d'une semaine, une vidéo datant des années 2000 circule sur le net. Dans cette vidéo, le général Mokoko dit à plusieurs reprises avoir renoncé à prendre le pouvoir alors que les conditions étaient réunies par le passé. À la fin, il apparaît de face comme dans une séquence destinée à la télévision nationale. Son équipe de campagne affirme que c'est une manipulation grossière. Le général Mokoko, chef d'état-major des armées entre 1987 et 1993, a annoncé sa candidature à la présidentielle du 20 mars face au président Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans à la tête du pays.
Au Rwanda, le gouvernement a réaffirmé hier lundi sa volonté de relocaliser à terme les réfugiés burundais installés sur son sol dans des pays tiers, tout en assurant que le pays respecterait ses obligations internationales. Les explications de John Linden.
Une délégation du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés et la ministre rwandaise chargée des réfugiés, Séraphine Mukantabana, sont allées lundi à la rencontre des réfugiés burundais dans le camp de Mahama. Après s'être longuement entretenue avec les responsables des réfugiés et les ONG présentes dans le camp, Mme Mukantabana a détaillé à la presse les clarifications qu'elle souhaitait apporter aux réfugiés. C'était pour que les réfugiés sachent que la décision que le gouvernement a prise pour la relocalisation est sans recours, mais que par ailleurs, cette décision n'amène pas le gouvernement du Rwanda à aller à l'encontre des engagements internationaux qu'il a signés. Quelques 240 000 Burundais ont fui leur pays depuis le début de la crise politique République en avril 2015, lorsque le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un troisième mandat controversé. Environ 75 000 d'entre eux se sont réfugiés au Rwanda voisin.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé hier après-midi à Bujumbura pour sa première visite au Burundi depuis le début de la crise politique dans ce pays en avril 2015. Monsieur Ban rencontre ce matin le président Pierre Nkurunziza afin de le convaincre d'ouvrir des discussions avec l'opposition.
Le bombardement américain qui a visé la semaine dernière un camp d'entraînement de combattants du groupe État islamique en Libye a probablement permis d'éviter un attentat en Tunisie voisine. C'est ce qu'a affirmé le Pentagone hier. Ce raid aérien avait fait plusieurs dizaines de morts, dont Noureddin Chouchan, décrit comme un cadre opérationnel du groupe État islamique. Noureddin Chouchan serait le cerveau des deux dernières attaques en Tunisie, celle du musée du Bardo qui avait fait 22 morts et celle de Sousse qui avait fait 38 morts.
En Éthiopie, les forces de sécurité continuent de réprimer brutalement les manifestations antigouvernementales dans la région de l'Oromia, a dénoncé hier dans un nouveau rapport l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. L'ONG évoque des assassinats et arrestations arbitraires quasi quotidiens.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde. Le président des États-Unis, Barack Obama, s'est entretenu hier, lundi, avec son homologue russe, Vladimir Poutine, pour évoquer la trêve qui doit entrer en vigueur le 27 février en Syrie. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Tout de suite après l'annonce du cessez-le-feu, Washington et Moscou ont insisté sur la responsabilité de tous les protagonistes dans sa mise en œuvre. À la demande du président Vladimir Poutine, souligne la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a eu un entretien avec le dirigeant russe hier, où il a notamment mis l'accent sur la nécessité du respect de l'accord par toutes les parties. M. Poutine a promis que son pays fera le nécessaire pour que Damas observe le cessez-le-feu. Il dit espérer que les États-Unis feront la même chose avec les groupes rebelles syriens. A signalé que les attaques contre le groupe État islamique et le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, continueront malgré le cessez-le-feu. Le président russe a annoncé que la Russie et les États-Unis sont prêts à mettre en place un mécanisme effectif de contrôle du respect de l'accord. Vladimir Poutine a aussi précisé qu'une ligne directe de communication sera créée, ainsi que, si nécessaire, un groupe de travail pour échanger des informations. Les premières réactions à ces déclarations sont positives. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué un signal d'espoir tant attendu pour la population syrienne. À Londres, le ministre des Affaires étrangères, Philip Hammond, fait remarquer que s'il est mis en œuvre pleinement, cet accord constituera une étape importante pour faire baisser la violence et contribuer au règlement politique du conflit syrien.
Le Royaume-Uni serait plus vulnérable aux attentats et aux crimes organisés si le pays décidait de quitter l'Union européenne à l'issue du référendum du 23 juin, a averti lundi l'Organisation européenne de coordination policière Europol. Selon son directeur, Rob Wainwright, entre 3 000 et 5 000 hommes entraînés par le groupe terroriste État islamique sont retournés en Europe. Pour lui, l'Europe est actuellement confrontée à la menace terroriste la plus élevée depuis 10 ans.
La justice française examine aujourd'hui, à la demande d'associations de défense des migrants, la légalité de l'ultimatum lancé par l'État aux occupants d'une partie importante de la jungle de Calais. Les migrants doivent avoir quitté les lieux avant 19h, temps universel. Le tribunal administratif de Lille doit statuer en début d'après-midi sur un référé déposé par 250 migrants et 10 associations.
Suite de la campagne présidentielle ici aux États-Unis, les candidats républicains à la Maison-Blanche vont s'affronter dans le Nevada aujourd'hui lors d'un scrutin s'annonçant déterminant pour prendre le pouls du vote hispanique. Premier scrutin dans la partie ouest du pays, le caucus du Nevada représente un baromètre crucial dans le déroulement de l'élection, sachant que près de 40% des 3 millions d'habitants de l'État sont d'origine latino-américaine.
Le bilan du passage du cyclone Winston sur les îles Fidji, le plus puissant de l'histoire de l'archipel, est passé à 29 morts, a annoncé hier le porte-parole du gouvernement. Le cyclone Winston, qui était accompagné de vents soufflant jusqu'à 325 km/h, a rasé dans la nuit de samedi à dimanche des dizaines de maisons et détruit des infrastructures des îles.
La montée des océans n'a jamais été aussi rapide depuis 3000 ans à cause du changement climatique, selon une étude publiée hier dans les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences. Entre 1900 et 2000, les océans et les mers de la planète ont monté d'environ 14 cm sous l'effet de la fonte des glaces, notamment dans l'Arctique. Selon un second rapport publié hier, sans le réchauffement de la planète depuis le début de l'ère industrielle et ses effets sur l'élévation des océans, plus de la moitié des 8000 inondations sur la côte est des États-Unis depuis 1950 ne se serait jamais produit.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce matin avec Eric Manirakiza.
Un projet hydraulique urbain près du lac de Guyer au Sénégal verra bientôt le jour. Financé par la Banque islamique de développement BID à hauteur de 132,2 milliards de francs CFA. La campagne Archidier en cours est aussi concernée. 12 autres programmes d'infrastructures figurent sur l'agenda d'ici 2020. Il s'agit notamment du train express reliant Dakar à la ville nouvelle de Diamaniadio, ainsi qu'au futur aéroport international Blaise Diagne. La BID engagera 1,3 milliard d'euros. Harare a suspendu deux compagnies minières extrayant des diamants dans la zone de Marangé de l'est du pays. Le ministre ayant les mines dans ses attributions a déclaré que les deux mines de Tiadzoa et de Chimanimani sont coupables d'exploitation illégale, donc sans permis. Le gouvernement zimbabwéen a décidé de prendre le contrôle des compagnies visées. L'industrie diamantifère du Zimbabwe est aussi engagée à fusionner 6 entreprises en une entité publique, la Zimbabwe Consolidated Diamond Company. Barcelone a accueilli hier le congrès mondial de la téléphonie mobile. C'est pour mettre au point le nouveau réseau, la 5G, qui doit apporter davantage de vitesse de débit Internet, mais aussi permettre le développement de la vidéo en ligne ou de la réalité virtuelle. L'Union européenne injecterait 700 millions d'euros en plus d'un investissement du secteur privé s'élevant à 3 milliards d'euros. L'Asie n'est pas en reste et l'envisage un test pendant les JO d'hiver de Pyeongchang en 2018. Verizon et AT&T, les deux opérateurs américains, vont bientôt lancer les premiers tests de terrain.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Eric. Place maintenant à notre page sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Claire.
Et nous parlons foot avec les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions en Europe.
Avec deux chocs en perspective, les Anglais d'Arsenal affrontent le FC Barcelone de Lionel Messi. Il y a aussi le choc au Juventus Turin contre le Bayern Munich.
Rigobert Song est le nouvel entraîneur des Lions amateurs du Cameroun.
Oui, Song a été nommé à ce poste par la FECAFOOT. L'ancien défenseur des Lions indomptables a pour mission de préparer notamment le prochain championnat d'Afrique des Nations en 2018 au Kenya. Le Belge Hugo Brousse, lui, a été placé à la tête de l'équipe A. Ce dernier a signé jeudi dernier son contrat de 2 ans avec la Fédération camerounaise de football. Ses objectifs, remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et qualifier les Lions indomptables pour la Coupe du Monde 2018.
Un nouveau mandat pour Sidi Diallo à la tête de la FIF.
Oui, le président sortant de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, a été réélu samedi à Yamoussoukro pour 4 nouvelles années à la tête de l'instance.
Serge Aurier a été entendu par le PSG.
L'international ivoirien du Paris Saint-Germain, mis à pied depuis une semaine par son club pour ses dérapages sur le réseau social Periscope, a répondu aux questions de la direction du Paris Saint-Germain. Aurier avait été mis à pied dimanche 14 février, malgré des excuses, après avoir notamment insulté son entraîneur Laurent Blanc lors d'un chat vidéo avec des internautes dans la nuit précédente. Et pour terminer, Claire, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Tout à fait, Bagassi. Et surprise, les Pistons de Détroit sont venus à bout des Cavaliers de Cleveland, 98-88. Miami Heat a battu les Pacers d'Indiana 101-93. Très logiquement, les Raptors de Toronto ont battu à plate couture les Knicks de New York 122-95. Et dans les matchs de la conférence Ouest, là, sans surprise, les Golden State Warriors se sont imposés face aux Hawks d'Atlanta 102-92. tout comme les Bucks de Milwaukee face aux Los Angeles Lakers, 108 à 101. Enfin, match serré pour les Timberwolves du Minnesota qui l'emportent face aux Celtics de Boston, 124 à 122.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Les manifestations se poursuivent au Tchad dans le cadre de l'affaire Zouhoura, cette jeune fille violée par des fils de hauts dignitaires du régime. Le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, le Kamojet, dénonce la mort d'un lycéen de 15 ans hier à Faya lors d'une manifestation violemment réprimée par la police. Aujourd'hui, l'opposition souhaite organiser une marche à N'Djamena, mais le ministre de la Sécurité a déjà fait savoir qu'elle ne serait pas autorisée. Nathalie Barge a joint le président du Kamojet, Mahamat Zen Sherif.
Les gens sont sortis et les forces de l'ordre, comme la manifestation n'a pas été autorisée, il y a eu des altercations, il y a eu des tirs d'armes avec des barres réelles, et il y a eu un mort et plusieurs blessés. Le jeune qui a été tué à Faya suite à la manifestation contre les viols de Zoura qui a 15 ans, nous étions dès le déclenchement, dès la publication de ces vidéos sur Internet, comme nous sommes des jeunes, nous sommes la première organisation de la société civile au Tchad concernée par cette cas de viol. Dès la veille, nous étions allés visiter la famille de la fille violée. Le lendemain matin, nous avons participé à la manifestation devant le domicile de la victime. Et nous avons participé dans plusieurs manifestations que la police a dispersées ici à N'Djamena. Et nous n'arrêtons pas, non seulement à la journée du 24 ville morte, mais aussi nous sommes en train de préparer d'autres actions au nom de notre organisation qui est le Kamojet pour que vraiment plus jamais ça au Tchad. Nous sommes présents dans 18 régions du Tchad. Kamojet, c'est une plateforme qui regroupe plus de 37 organisations des jeunes.
Et est-ce que vous suivez de très près justement les arrestations de lycéens?
17 sont arrêtés. Au moment où je parle avec vous, nous n'avons pas eu les nouvelles de leur libération. Nous allons essayer de se rapprocher auprès du parquet pour que nous demandions leur libération. Parce que la plupart des lycéens, c'est des mineurs. Donc on ne peut pas vraiment arrêter et détenir dans les prisons des enfants dans des conditions difficiles de prison que nous connaissons au Tchad. Donc nous allons exiger leur libération et ça en se rapprochant auprès du procureur de la République.
Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un lycéen se fait tuer. Vous-même, en tant qu'association de jeunes, quel regard portez-vous sur ces exactions policières et que demandez-vous au gouvernement?
Nous déplorons vraiment cette culture de violence que la police est en train d'adopter vis-à-vis de la population et particulièrement vis-à-vis de la jeunesse. Parce que la jeunesse tchadienne a de sérieux problèmes. Et ces problèmes poussent la jeunesse à manifester de manière pacifique, à exprimer vraiment ce que la jeunesse ressent. Le Tchad est partie prenante de plusieurs conventions au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, garantissant et protégeant non seulement les droits de l'enfant, mais aussi les droits de l'homme d'une manière générale. Donc nous demandons au gouvernement au respect des droits de l'homme. Il ne faut pas que les manifestations qui sont autorisées par la constitution de notre pays soient réprimées par la violence. Il y a d'autres moyens pour vraiment temporiser un peu les jeunes, mais non seulement la violence. Donc il faut que le gouvernement ait une culture de dialogue avec sa jeunesse.
Mahamat Zen Sherif, président du Kamojet, le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Le Cameroun accueille plus de 300 000 réfugiés centrafricains qui ont fui leur pays. Des réfugiés qui ont suivi avec intérêt le second tour de l'élection présidentielle le 14 février, qui a vu la victoire de Faustin Archange Touadéra. Mais pour le moment, la plupart des réfugiés n'envisagent pas de rentrer en Centrafrique. Un reportage de notre correspondant au Cameroun, Moki Edwin Kinzeka, présenté par Michel Joseph.
Belmont Vieux-Osé, un ancien assistant à l'université de Bangui, est maintenant réfugié à Garoua-Boulaï, dans l'est du Cameroun. Il avait battu campagne pour Anissé Georges Dologuélé au second tour. Son candidat a perdu et il appelle le président élu à œuvrer maintenant pour la paix.
Ce que le président peut faire maintenant, là, moi je suggère de rassembler d'abord ses enfants parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et le problème qui se passe maintenant, il voit d'abord le problème des enfants, de l'école et des fonctionnaires, donc chefs religieux, et ils s'asseyent et ils voient comment ils vont faire. Comme ça s'est passé dans les normes, vraiment ce que nous on souhaite, c'est qu'ils laissent un peu de mettre la paix. et ils dirigent bien le pays. Entre-temps, ce sont des frères, parce que ça ne sert à rien qu'ils vont encore se cogner les têtes, gâter encore le pays.
Djodiar Kato, un partisan de l'ancien président Bozizé, estime que la victoire de l'ancien premier ministre Touadéra indique que la Centrafrique n'est pas prête pour la réconciliation et qu'il n'est pas du tout sûr de pouvoir sereinement retourner dans son pays.
Nous qui avons combattu avec le président Bozizé, nous sommes recherchés partout. Donc nous n'avons pas notre sécurité. Nous ne sommes pas sûrs qu'en rentrant là-bas, nous serons en paix. Nous serons libres comme tout le reste. D'abord, actuellement, tous ceux qui ont combattu avec le président sont recherchés à travers le monde entier. Donc on préfère rester où nous sommes.
Même Touadéra Bienvenu, un fervent défenseur de Faustin Touadéra, est toujours réticent à l'idée de regagner le pays natal.
Vous savez qu'il faudrait d'abord qu'il y ait la paix dans le pays. Si nous sommes venus au Cameroun, c'est parce que nous savons que le Cameroun, c'est un pays de paix. Donc, s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas envisager le retour. Et si retour y est, c'est d'abord individuellement que tout un chacun doit décider en son âme et conscience. Je retourne ou je ne retourne pas. Et ça, c'est lié à beaucoup de facteurs aussi. Comment va-t-on appuyer celui qui va décider de retourner chez lui? Parce que on suppose qu'en fuyant la guerre, il a tout perdu. Comment il va redémarrer? Une père de famille qui vient comme ça, de bout à blanc, qui a tout perdu, qui doit nourrir les enfants, inscrire les enfants à l'école, ainsi de suite. Donc, c'est là la question.
Le Cameroun et la République centrafricaine ont pourtant mis en place une commission conjointe pour encourager les réfugiés à rentrer. Selon Ekodo Roland Yannick, un jeune Camerounais travaillant pour cette commission, beaucoup de réfugiés hésitent encore à rentrer parce qu'ils ont tout perdu pendant la guerre.
Je ne vois pas qu'ils peuvent rentrer chez eux si tôt. Ils n'ont pas ça dans leur idée, même dans leur esprit. Eux, c'est rester ici au pays, soit aller ailleurs. Ils font des dossiers au HCR et le HCR leur trouve des pays d'accueil. D'autres sont en train d'aller au Canada, d'autres vont aux États-Unis. Donc là-bas, ils sont bien accueillis, on leur trouve le travail et beaucoup vont même avec leurs parents. Mais rentrer en Centrafrique, avec tout le désordre qui se passe là-bas, pour eux, c'est pas la priorité, c'est même pas pensif. Donc on a dit que rentrer en Centrafrique, pour mes frères là, beaucoup parmi eux ont perdu leurs membres de famille. Ils le disent, c'est courant. Ils ne voudraient pas se retrouver dans les mêmes problèmes que leur famille restée au pays.
L'Agence nationale des élections a annoncé samedi la victoire de Faustin Archange Touadéra avec 63% des voix. Son rival, Anissé Georges Dologuélé, a reconnu sa défaite, faisant naître beaucoup d'espoir dans ce pays fragilisé par 2 ans de violence entre communautés qui ont fait des milliers de morts et contraint plus de 5000 personnes à fuir leur maison.
La RDC vient de lancer une campagne de vaccination contre la méningite. 625 cas et 29 décès ont été enregistrés en 2015 au Nord Kivu, selon le bureau du programme de vaccination de la province. 5 millions de personnes de moins de 30 ans sont appelées à se faire vacciner en 10 jours. Beaucoup d'habitants se réjouissent de cette campagne de vaccination gratuite. Reportage de notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka.
Soigner la méningite coûte énormément cher, surtout pour des familles démunies dans une région touchée par des conflits armés. Madame Aziza, mère de 10 enfants, dont l'un touché par cette maladie de méningite et les soins pour son enfant, ont appauvri sa famille et qui devrait acheter tous les médicaments pour l'enfant.
J'ai vraiment souffert pour que mon enfant puisse être soigné de cette maladie de méningite. J'ai payé plus de 1000 dollars pour seulement les soins. C'est pour cela que je conseillerais vivement toutes les mamans de vacciner leurs enfants. C'est vraiment la chance pour cette vaccination gratuite.
Ça n'a qu'on pas ta vaccin à bourre.
La campagne débute dès ce 23 février sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. 32 zones de santé seront concernées. Plus de 5 millions de personnes sont attendues pour la vaccination. Docteur Stéphane Batei, qui est le coordonnateur du programme de vaccination Nord Kivu, explique ici les motivations.
Nous venons de lancer la campagne officiellement. Nous allons vacciner autour de 5 550 000 personnes d'une année à 29 ans. Vous savez, d'ici là, on va entrer dans la saison sèche, qui est la période de haute transmission. Et quand quelqu'un tousse ou expire, il peut transmettre cette maladie. À travers le bisou, comme ça, on peut se transmettre la maladie. Et c'est pour cela qu'on voulait protéger d'abord une grande population. Autour de 71% de la population, une fois protégée, on aura une immunité collective sur l'ensemble de la population.
Sur place, plusieurs jeunes, lycéens et universitaires ont profité de cette vaccination gratuite. Certains d'entre eux donnent ici leurs impressions.
Oui, je suis Christophe.
respect Kaunga. Moi, c'est un privilège que j'ai eu d'être la première personne d'être vaccinée.
Moi aussi, je suis contente d'être vaccinée parce que je vois que les vaccins qu'on a fait, c'est pour lutter contre la maladie méningite. Je suis sûre d'être protégée.
Dans une région où le paludisme est présent et manifestant presque les mêmes symptômes que la méningite, le docteur Stéphane martèle sur l'importance de se faire vacciner bien avant les temps.
Les signes, on a des fièvres, on a des maux de tête, des céphalées aussi. Le malade a moins de temps, même s'il part à l'hôpital, il a moins de chances de s'en sortir, autour de 10% décèdent. Et ceux-là qui s'en sortent, ça coûte d'abord très cher. En plus de ça, vous pouvez vous en sortir avec des séquelles neurologiques.
Les défis pour le bon déroulement de cette campagne de vaccination restent l'insécurité dans certains coins de la province, difficile à accéder. Charlie Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
La rentrée littéraire du Mali s'est effectuée ce lundi à Bamako. Il s'agit d'un festival qui regroupe écrivains, poètes et artistes du monde entier, ainsi que les professionnels de la production, l'édition et la promotion des livres. Kadiatou Traoré a joint l'un des participants, l'écrivain Birama Konaré.
Le thème de cette année, c'est « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Ça veut dire que c'est à nous de porter ce changement-là. Et c'était très important d'aller à la rencontre des étudiants et leur dire que malgré tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, le fanatisme religieux, les crises économiques, et il faut rester résilient en fait. Il faut avoir cette capacité-là d'aller au-delà de l'adversité, d'aller au-delà des difficultés. Justement, on a un peu parlé de Joseph Kizerbo qui disait en Bambara, Ndara, Sara, si l'on se couche, on est mort. Donc dans ce monde-là où c'est très très compétitif, la jeunesse africaine n'a pas le droit de baisser les bras. Il faut qu'on reste positif, il faut qu'on se batte.
Birama Konaré, combien de livres avez-vous dans votre répertoire?
Pour le moment, j'ai écrit 3 livres. Le premier, c'est Koulouba, la colline sur la tête, un récit autobiographique qui parle de cette époque passée à Koulouba. Ensuite, il y a eu une collection de nouvelles qui s'appelle « Les marguerites ne poussent pas dans le désert ». Donc, marguerite, ça fait référence à la fleur qui est très, très belle. Ça fait référence aussi à la jeune femme Marguerite, mais qui a du mal à s'émanciper, à s'épanouir dans la société africaine, d'où le titre « Les marguerites ne poussent pas dans le désert ». Et donc, dans ce livre-là, je donne la parole à des femmes, en fait, des femmes que j'ai rencontrées, qui m'ont laissé avec des émotions, avec des cris, avec des mots, des fois, très durs sur la société. Donc, pour moi, il fallait exorciser tout ça. Il fallait trouver le moyen de faire entendre leur message, de faire entendre leur détresse. Ensuite, j'ai publié L'Afrique plumée, chronique d'un continent en détresse. Donc, c'est une collection aussi des chroniques que je tiens dans le journal Les Échos. Et puis, bon, il y a eu quelques parutions dans Jeune Afrique et Libération. Et là, on parle des problèmes de société, l'alcoolisme des fois qui touche notre société. On en a parlé ce matin d'ailleurs avec les étudiants, leur faire comprendre l'importance, la sacralité de la vie humaine. Donc, dans mes chroniques, j'essaie de traiter ce sujet-là, de sensibiliser les gens parce que c'est un peu notre responsabilité en tant qu'auteur aussi.
Quel message particulier avez-vous à donner aux jeunes du Mali, aux jeunes Africains?
C'est vraiment un message d'espoir en fait. Je sais que le contexte global n'est pas facile. Le monde est très violent, mais nous en Afrique aujourd'hui, on peut rester un peu positif parce qu'à l'horizon 2050, on sera la population la plus jeune avec une main-d'œuvre très très dynamique et tout le monde s'intéresse de plus en plus au continent africain. Nous sommes dans une nouvelle révolution, la révolution des nouvelles technologies et là on n'est pas à la traîne. Il y a beaucoup de belles choses qui se font en Afrique, des innovations qui viennent d'ici, par exemple même faire les transactions bancaires, financières avec un téléphone portable, ça vient du Kenya avec M-Pesa et les gens viennent sur le continent, s'inspirent de tout ce que nous faisons. Donc il faut juste qu'on relève les défis qui se posent à nous. Si nous arrivons à aborder ces questions, je pense que l'Afrique fera partie des leaders dans un futur très proche.
L'écrivain malien Birama Konaré joint à Bamako. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Anne Alberson était à la réalisation. John Ellison était à la console. Présentation Anne Alberson et Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voaafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.